Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles, et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse et divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers amis, bien, chers frères, nous sommes maintenant dans le traité sur les lois. Prima pars, question 90 à 108, première partie de la somme, pardon, prima secundae, question 90 à 108, donc première partie de la deuxième partie de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Et donc, nous avons déjà vu pas mal de choses la dernière fois, comme introduction à ce traité, et nous en sommes maintenant en bas de la page 66 sur le polycopier. Page 66, en bas de la page. Donc nous avons déjà, je reviens rapidement sur la définition de la loi donnée par saint Thomas, qui est une grande définition, très connue, rationalis ordinatio ad bonum commune ab eo qui curam communitatis habet promulgata. Donc l'ordonnance de la raison en vue du bien commun promulguée par celui qui a charge de la communauté. Donc pour qu'une loi soit légitime, une loi soit, je dirais, licite devant Dieu, et même devant les hommes d'ailleurs, dans certains cas, il faut trois conditions. Il faut d'abord que cette ordonnance soit raisonnable. La loi est une ordonnance, donc il faut qu'elle soit raisonnable, qu'elle suive la loi de la raison. Il faut qu'elle soit établie en vue du bien commun, et ensuite promulguée par celui qui a charge de la communauté, c'est-à-dire promulguée par le législateur, que ce soit une loi humaine, que ce soit une loi divine. La définition que donne saint Thomas de la loi s'applique à toutes les lois. Donc si une loi est une ordonnance de raison en vue du bien commun, promulguée par celui qui a la charge de la communauté, c'est une loi qui est valide et qui donc oblige en conscience. Nous allons expliquer tout ça petit à petit en suivant saint Thomas d'Aquin. Donc, saint Thomas se demande si toutes les choses humaines sont soumises à la loi éternelle. Donc, si on est en bas de la page 66, je vous l'ai dit sur le polycopier, prima secundae, question 93, article 6. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont, ou des choses tout simplement, des créatures de Dieu qui ne sont pas soumises à la loi éternelle. Mais en fait, poser la question, c'est y répondre. À partir du moment où nous croyons en Dieu, à partir du moment où Dieu existe, eh bien, nous sommes soumis à sa loi. Toute créature est soumise, par le fait même qu'elle est créature, à la loi de Dieu. Donc, à la base de tous les problèmes, si vous voulez, tous les problèmes économiques, tous les problèmes politiques, tous les problèmes religieux, tous les problèmes familiaux, tous les problèmes professionnels, tout revient, si vous voulez, à se poser la même question. Est-ce qu'il y a un patron pour nous? Est-ce qu'il y a un grand patron au-dessus de tous les patrons de la terre, un grand patron avec un grand P, qui dirige tout? Est-ce que Dieu est créateur de toutes les choses sur la terre? Donc, dans le monde, il y a deux choses. Il y a le créateur, il est unique, Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et des milliards de créatures. Certaines avec la raison, il y en a deux sortes, les anges et les hommes. Certains sans la raison, à savoir les animaux par exemple, les plantes qui sont vivants, Un animal est vivant, une plante est vivante, mais n'a pas la raison humaine. Cependant, une plante ou un animal sont des créatures de Dieu. Et même les objets inanimés, une pierre par exemple, une pierre n'est pas vivante, mais elle est créature de Dieu. La terre qui nous entoure, les beautés de la création, le naturel de la création, sont créées par Dieu. Donc, toutes les créatures, à partir du moment où elles sont créées par Dieu, ont un devoir d'obéissance à Dieu. Donc Dieu a le droit d'établir une loi pour toutes ces créatures. Donc toutes les créatures ont suivi la loi de Dieu, soit de façon obligatoire, par exemple si elles n'ont pas de raison. L'eau d'un torrent est créée aussi par Dieu, les nuages sont créés par Dieu. Bien, ils suivent des lois physiques que Dieu leur a imposées. La loi de la gravité par exemple, la loi de l'évaporation. Donc l'eau va s'évaporer, va passer dans les nuages, va former les nuages, et qui vont donner la précipitation après, plus tard, sur la terre. C'est une loi, un cycle voulu par Dieu. Pourtant, l'eau est en soi un être inanimé, un être qui a été créé par Dieu, même s'il est inanimé, donc il a une loi, il suit la loi. Et l'eau, ou un rocher, ou un nuage, ne peuvent pas se révolter contre leur créateur. C'est impossible. Pareil pour les êtres animés, mais sans raison. Un oiseau, un chien, un chat ont aussi une loi voulue par le bon Dieu. Ils vont suivre une loi naturelle. Il y a un instinct qui va leur dire qu'à telle période de l'année, eh bien, il faut commencer à préparer son nid. L'oiseau sait qu'à tel moment, les œufs vont arriver, qu'il va falloir couver les œufs pour donner des oisillons. Le bon Dieu a voulu tout cela, et les oiseaux, les chiens, les chats suivent cette loi naturelle qui leur est donnée, qu'on appelle un instinct en fait. L'instinct, c'est la loi naturelle des poissons, des chats, des chiens. Et bien cet instinct fait que, sans aucune possibilité de se révolter, et bien ils vont suivre la loi du bon Dieu. La loi s'exerce aussi, évidemment, pour les créatures raisonnables. La grande différence entre une créature raisonnable et une créature inanimée ou une créature sans raison, c'est que la créature raisonnable, hélas, peut se révolter contre Dieu. C'est là qu'est tout le malheur d'ailleurs. C'est que les créatures qui sont les plus élevées dans l'échelle de la création, qui sont les plus proches de Dieu, n'oublions pas que l'homme est créé à l'image de Dieu, et même dans certains cas à la ressemblance de Dieu, que les hommes justement, ou les anges qui ont été créés à l'image de Dieu, encore plus que nous, eh bien, les hommes et les anges, pourtant au sommet de la création des créatures du bon Dieu, sont les seules créatures de Dieu qui ont le pouvoir de se révolter contre Dieu, au moins pour les hommes. Pour les anges, ils ont eu ce pouvoir, malheureusement, de se révolter contre Dieu au moment de leur création. Actuellement, ils ont déjà fait leur choix, ou pour ou contre Dieu. Ceux qui ont fait leur choix pour Dieu sont au ciel, et ceux qui ont fait leur choix contre Dieu parmi les anges sont malheureusement en enfer pour toute l'éternité. Donc, de ce côté-là, ce n'est plus possible de rattraper quoi que ce soit, parce qu'ils ne sont pas dans le temps, mais dans l'éternité, et qu'il faut du temps pour changer. Donc, à partir du moment où ils ont fait leur choix, c'est définitif. Et c'est ça, là, qui est le drame. C'est que nous avons reçu beaucoup plus par notre âme que les autres créatures. Il y a une différence infinie entre un chien, un chat et un homme, parce que l'homme a justement une âme créée à l'image de Dieu, une substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté, capable de connaître Dieu et de le suivre parce qu'elle est immortelle, et de l'obéir parce qu'elle est immortelle. Un chat n'a pas d'âme. Il n'a pas d'âme raisonnable. Il a ce qu'on appelle une âme philosophique, une âme végétative, une âme sensitive. Une branche d'arbre, un arbre a une âme, si vous voulez, végétative. Un caillou n'a pas d'âme, ni végétative, ni sensitive, ni intellectuelle. Mais nous avons une âme intellectuelle. Alors, bien que nous ayons reçu beaucoup plus que tous les autres, toutes les autres créatures de Dieu, eh bien, nous avons malheureusement en nous un triste don, si vous voulez, que le bon Dieu nous a offert, mais que nous avons très mal utilisé, le don de la liberté. Nous verrons ça plus tard dans la somme de saint Thomas. La liberté est en fait une imperfection. Les anges au ciel, qui ont déjà fait leur choix, ne sont plus libres maintenant de se révolter contre Dieu. Ils ne peuvent plus se révolter contre Dieu parce que leur volonté est fixée de façon permanente dans la volonté divine. Donc un ange ne peut plus se révolter contre Dieu, c'est impossible. Hélas pour nous, nous pouvons encore, par un mauvais usage de notre liberté, en suivant notre mauvais instinct, en suivant les tentations du démon, en suivant nos mauvais penchants, nous pouvons hélas tout perdre. C'est ça le drame. Et nous pouvons malheureusement donc utiliser notre liberté contre la loi du bon Dieu. Il est donc important pour lutter contre le péché de connaître la loi naturelle, la loi divine, et comment la loi naturelle est l'inscription, si vous voulez, dans notre nature de la loi éternelle. Rappelez-vous ce qu'on a déjà expliqué au dernier cours, la loi naturelle n'est pas autre chose qu'une participation à la loi éternelle dans la créature raisonnable. Donc, après ce rappel de la définition de saint Thomas, de la loi, donc trois conditions, qu'elle soit raisonnable, qu'elle suive le bien commun, qu'elle soit établie par le législateur. Donc, voyons comment justement toutes les créatures de Dieu sont soumises à la loi éternelle. Ici, c'est la question qui nous préoccupe, article 86 de la question 93 de Prima Secundae, comment les choses humaines sont soumises à la loi éternelle. Donc, Dieu, encore une fois, est créateur de toutes choses, okay, mais il nous laisse libres parce que nous sommes une créature raisonnable. Qui dit créature raisonnable ici-bas sur la terre, pour les hommes, dit liberté. La raison, ce qui dit usage de la raison, dit liberté. Et donc nous avons la liberté, malheureusement, de refuser la loi divine, la liberté de dire non à la loi du bon Dieu, la liberté de répéter le mot terrible du démon au bon Dieu, je ne servirai pas. Alors le bon Dieu tolère le mal, au moins ici-bas. Il ne tolère plus le mal après la mort. Mais avant la mort, oui. Ici-bas, le bon Dieu tolère le mal. Et cette tolérance du mal que nous voyons en Dieu ne veut pas dire qu'il y a une faiblesse en Dieu. Attention. Le bon Dieu tolère le mal parce que justement, il veut que nous exercions notre liberté pour choisir librement ce qui nous mène au bon Dieu. Donc, vous avez ici le texte de saint Thomas. En bas de la page 66 sur le polycopier, rien n'échappe aucunement aux lois du Créateur et de l'ordonnateur suprême qui assure la paix de l'univers. Donc, toutes les créatures sont soumises à Dieu de façon différente, encore une fois, soit avec l'usage de notre liberté, donc la possibilité de refuser la loi du bon Dieu, soit sans l'usage de notre liberté. Simplement en suivant l'instinct, par exemple, qui est dans un animal, un animal non raisonnable. Dieu est le maître de tout, le créateur de toutes choses. Il est ce qu'on appelle la cause première, mais il va tolérer des défaillances des causes secondes. On a déjà vu tout ça, donc je reviens là-dessus rapidement. Je ne reviens pas justement sur ces choses complètement, on a déjà vu tout ça. Donc Dieu tolère le mal. Dieu tolère des défaillances volontaires des causes secondaires. Et ce n'est pas parce qu'une cause secondaire défaille que ça veut dire que Dieu n'a plus aucun pouvoir sur cette cause secondaire. La cause secondaire peut défaillir, Dieu tolère cette défaillance, mais il est toujours Dieu. Et quand il tolère une défaillance, parce qu'il respecte l'usage de notre liberté, eh bien, il est toujours cause première, cause principale. Et donc, il y aura toujours un moment où cette défaillance va devoir se terminer. Dieu tolère, par exemple, on le voit très bien aujourd'hui, ça c'est très important, c'est ce que va expliquer saint Thomas d'Aquin dans cet article. Dieu tolère, par exemple, des gouvernements profondément antichrétiens. Dieu tolère la république laïque, anticatholique, maçonnique, moderniste, libérale que nous avons malheureusement en France. Il la tolère. Ça veut pas dire qu'il est d'accord. Il semble laisser Dieu donne l'impression de donner la liberté à tous les ennemis de l'Église. Souvent, je reçois beaucoup de messages, de coups de téléphone parfois sur ce sujet. Je dis, monsieur l'abbé, comment se fait-il que le bon Dieu tolère des horreurs pareilles? Comment se fait-il que le bon Dieu tolère la loi du genre, que Dieu tolère la légitimation de l'homosexualité, du mariage à laisser, toutes ces horreurs-là? Pourquoi le bon Dieu n'agit-il pas de façon à empêcher ces choses-là? Réponse, Dieu respecte notre libre arbitre. Il veut que nous venions à lui, il veut que nous allions un jour au ciel, mais il veut que nous allions au ciel librement. Et soyons certains d'une chose, au ciel, il n'y a aucune tolérance des choses mauvaises. Il n'y a pas de choses mauvaises au ciel. Il n'y a pas de loi du genre au ciel, il n'y a pas de respect de l'homosexualité au ciel. Au ciel, tout le monde suit la loi du bon Dieu, sans aucune contestation possible, parce que justement, il n'y a plus l'usage de la liberté au ciel. Voilà ce qu'il nous faut comprendre. Et n'oublions pas, il faut voir ça avec des yeux surnaturels, que même tous ces gouvernants, pas simplement en France, mais pratiquement dans le monde entier, à part quelques rares exceptions, tous ces gouvernants qui se prennent pour le bon Dieu et qui utilisent leur puissance pour lutter contre la loi naturelle, lutter contre la loi divine, imprimé dans notre cœur, qui font passer des lois nauséabondes, qui font passer des lois contre nature partout, eh bien, ces gens qui sont des causes secondaires sont toujours soumis à la cause principale. On a l'impression qu'actuellement, ils ont cette liberté, mais cette liberté ne durera pas. Tous les gouvernants actuels, qui sont tous pratiquement contre Dieu, un jour vont mourir, comme tout le monde. Et ce jour-là, la cause principale reprendra le contrôle total et complet de la cause secondaire. Et Dieu va demander à tous ces gouvernants qui essayent par tous les moyens de détruire les racines de la France catholique, le bon Dieu va demander à ces gouvernants, qu'avez-vous fait de votre gestion? Qu'avez-vous fait de tout ce que je vous ai donné? Et à ce moment-là, ils ne pourront plus rien dire. Et le bon Dieu va les juger à ce moment-là avec beaucoup plus de force que les autres, parce que justement, ils ont une autorité. Et toute autorité vient de Dieu. Alors, il y a deux façons, nous dit saint Thomas d'Aquin, d'être soumis à la loi éternelle. Nous pouvons être soumis à la loi éternelle, nous pouvons être par connaissance, ce qu'il dit en bas de la page 66 sur le polycopier. Il y a deux manières pour une chose d'être soumise à la vie éternelle. Donc, ou bien la loi éternelle est participée par mode de connaissance, donc ça c'est le cas pour les créatures raisonnables, nous avons une connaissance de la loi naturelle, connaissance de la loi naturelle qui est une participation de la loi éternelle dans la créature raisonnable. Donc quelqu'un qui a une connaissance de la loi naturelle a indirectement une connaissance de la loi éternelle, ça c'est pour les créatures raisonnables, donc pour ici-bas sur la terre pour nous les hommes, ou bien par mode d'action et de passion, en tant que participer sous forme de principe interne d'activité. Ça, c'est pour les créatures sans raison. Ce que dit donc saint Thomas, nous sommes à la page maintenant 67, ou la page 67, pour le polycopier, c'est de cette seconde manière, donc par mode d'action et de passion, que les créatures sans raison sont soumises à la loi éternelle. Un oiseau, un chat, un chien sont soumis à la loi éternelle par leur instinct. La loi éternelle inscrites dans leur nature. La seule différence, c'est qu'évidemment, pour un oiseau, un chat ou un chien, ils n'ont pas d'âme raisonnable et donc il n'y a pas de vie après la mort. Pour eux, après la mort, c'est fini, c'est terminé. La créature raisonnable, au contraire, en possédant ce qui est commun à toutes les créatures, a cependant en propre cet élément d'être doté de raison. La raison, c'est quoi? C'est l'usage de notre libre arbitre. C'est pourquoi elle se trouve soumise à la loi éternelle à double titre. D'abord, dit saint Thomas, parce qu'elle a une certaine connaissance de la loi éternelle. Par exemple, même un brandit, même les gouvernants actuels de la France, qui se moquent complètement du bon Dieu, savent parfaitement, au fond d'eux-mêmes, même s'ils ne veulent pas le reconnaître, ils savent très bien qu'on ne peut pas tuer, on ne peut pas voler, on ne peut pas mentir, ils le savent. Malheureusement, ça ne les empêche pas de mentir, de voler et de faire tuer par les lois abortives. Mais ils savent très bien, au fond d'eux-mêmes, qu'ils font quelque chose qu'ils n'ont pas le droit de faire. Une mère de famille, une maman qui tue son enfant dans son sein, même si elle appartient au mouvement de la libération de la femme, à toutes les associations mortifères d'aujourd'hui, c'est pas ça qui manque malheureusement, elle sait très bien au fond d'elle-même qu'elle fait quelque chose qu'elle n'a pas le droit de faire. Elle sait très bien au fond d'elle-même qu'elle tue un être humain. Elle ne va pas vouloir le reconnaître, c'est autre chose. De la même façon, si vous voulez prendre un autre exemple, un petit garçon qui veut voler 1 euro dans le portefeuille de sa mère, il sait très bien qu'il fait quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire. Il sait très bien que c'est un vol. Même s'il a 10 années, il sait très bien. Et il attend que sa maman ne soit pas dans la maison pour aller dans le sac à main de sa maman, ouvrir le portefeuille et prendre 1 euro. Un enfant à qui fait une bêtise, sa maman lui demande « Avez-vous fait telle bêtise ?» Et l'enfant répond « Non » alors que c'est lui qui a fait la bêtise. Il sait très bien au fond de lui-même, même si c'est un petit païen, il sait très bien au fond de lui-même qu'il ment à sa mère. Pourquoi ? Parce que la loi naturelle lui indique « Tu ne mentiras pas ». La femme qui vient d'avorter sait très bien qu'elle fait qu'elle commet un crime épouvantable en tuant un innocent et que quelqu'un a dit « Tu ne tueras pas ». Celui qui veut voler sait très bien qu'il y a quelqu'un qui a dit « Tu ne voleras pas ». Et ce quelqu'un qui a dit « Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas », bien ce quelqu'un, c'est qui ? C'est leur créateur. Voyez-vous, c'est pour cela, tout s'explique, que dans le monde moderne, antichrétien et laïque, leur point principal, c'est de détruire le principe même de causalité. J'en ai déjà parlé. Pour le principe de causalité qui explique bien qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Donc, qu'est-ce que cherchent à faire avant toute chose les gouvernants laïcs et anticatholiques qui nous dirigent, malheureusement? Ils cherchent à détruire donc le principe d'autorité en détruisant complètement l'idée que l'homme est une créature. Parce que si l'homme est une créature, il y a un créateur au-dessus de lui. S'il y a un créateur au-dessus de lui, nous avons des devoirs et le créateur a des droits. Donc le créateur est au-dessus, la créature est en dessous, il faut obéir au créateur. Et c'est cette équation, si vous voulez, tellement importante que le Dieu étant créateur, l'homme étant créature, donc la créature a le devoir de se soumettre au créateur, justement parce que la créature est en dessous du créateur. Et donc les gouvernants actuels, surtout en France, c'est très net, utilisent surtout leur influence par les écoles sans Dieu sur les âmes des petits-enfants pour essayer de leur faire croire qu'ils sont Dieu eux-mêmes. Que chacun est donc libre de faire ce qu'il veut, et ils poussent l'irresponsabilité jusqu'à dire aux enfants, maintenant même aux enfants de 10 ans, voire même 7 ans, vous êtes libre de devenir un petit garçon ou une petite fille. Vous n'êtes pas né garçon ou fille, chacun fait son choix. Vous voulez devenir une petite fille, devenez une petite fille. Vous voulez devenir petit garçon, devenez petit garçon. Donc, à partir du moment où la créature est dotée de raison, elle se trouve soumise à la loi éternelle. D'abord parce qu'elle a une certaine connaissance de la loi éternelle, dit saint Thomas d'Aquin. Ensuite, parce qu'il existe en toute créature raisonnable un penchant naturel vers ce qui est conforme à la loi éternelle. Car, et saint Thomas cite Aristote, 4 siècles avant notre Seigneur Jésus-Christ, donc un païen, de naissance, nous sommes enclins à être vertueux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons en nous, même si nous ne sommes pas catholiques, à partir du moment où nous sommes créatures raisonnables, qui dit créature raisonnable dit existence d'une âme intellectuelle, d'une âme raisonnable dans cet individu. L'homme est composé d'un corps et d'une âme. Donc qui dit créature raisonnable ici-bas sur la terre dit existence d'une âme. Et qui dit existence d'une âme dit intelligence et volonté. Tous les hommes, parce qu'ils sont hommes, ont une âme. Tous les hommes, parce qu'ils ont une âme, ont une intelligence. Donc c'est un syllogisme tout simple. Jean est un homme. Mineur, tous les hommes ont une âme. Conclusion, donc Jean a une âme. Bon. Tous les hommes sont des êtres raisonnables. Or, Jean est un homme, donc Jean a une âme raisonnable. Tout simplement. Et qui dit âme raisonnable dit que nous avons une intelligence, à partir du moment où nous avons une âme, toutes les âmes ont une intelligence, une volonté, un irascible, un concupiscible. C'est comme ça que le bon Dieu a créé les choses. On peut ne pas être d'accord sur autre chose, mais c'est comme ça que les choses se passent. Vous êtes un homme, donc vous avez une âme. Si vous n'avez pas d'âme, vous n'êtes pas un homme. Si vous n'avez pas d'intelligence, vous n'êtes pas un homme. Si vous n'avez pas de volonté, vous n'êtes pas un homme. Si vous n'avez pas d'irascible et concupiscible, vous ne faites pas partie de la race humaine. Un homme, c'est quelqu'un qui a une âme. Tous les hommes ont une âme. Tous les hommes ont une intelligence. Cette intelligence va être plus ou moins développée, la volonté va être plus ou moins développée. Par exemple, la volonté d'un petit enfant de deux mois, elle existe, mais est encore endormie. L'intelligence d'un enfant de 6 ans ne correspond pas à l'intelligence, évidemment, d'un polytechnicien. Ce sont deux choses différentes. Mais un enfant de 2 mois a une intelligence. Un ingénieur polytechnicien de ses 50 ans a aussi une intelligence. Donc, qui dit intelligence dit que l'intelligence va nous indiquer le chemin pour aller à son objet formel qui est le vrai. L'objet formel de l'intelligence, c'est le vrai. L'objet formel du bien, de la volonté, pardon, c'est le bien. Donc tout homme qui a une âme a en lui une faculté pour connaître le bien par son intelligence et pour pouvoir l'atteindre avec l'usage de sa volonté. Tous les hommes, même les bandits, tous les hommes, même les laïcs antichrétiens qui nous dirigent, même ces bandits qui nous dirigent ont une âme. Il ne faut pas oublier ça. Ils ont une âme à sauver comme les autres. Ils ne s'en préoccupent pas, mais ça n'empêche pas le fait qu'ils vont devoir sauver leur âme. Même tous ces bandits, ces laïcards qui nous dirigent, qui cherchent à détruire encore une fois toutes les racines de la France chrétienne, la France catholique, ont une âme et donc ils ont en eux un moyen qui leur indique où est le vrai. Parce que l'objet formel de l'intelligence, c'est le vrai. Donc ils ont une âme, s'ils ont une âme, ils ont une intelligence dont l'objet formel est le vrai. S'ils ont une âme, ils ont une volonté dont l'objet formel est le bien. S'ils ont une âme, ils ont aussi un irascible dont l'objet formel est le bien ardu, c'est-à-dire le bien difficile à obtenir. Et s'ils ont une âme, ils ont aussi en eux un concupiscible, c'est-à-dire un pouvoir d'atteindre le bien désirable. C'est valable pour tout le monde, y compris pour les païens, y compris pour les francs-maçons, y compris pour les gens qui se moquent complètement de Dieu. Et cela nous aide à comprendre d'ailleurs, c'est une remarque, une anecdote, mais qui est très importante, cela nous aide à comprendre que dans la politique actuelle, le fait d'avoir éliminé le bon Dieu systématiquement de toutes les choses politiques, de toute la sphère politique, est un crime épouvantable. Cela correspond tout simplement à un acte de révolte de l'homme contre Dieu, de l'homme qui refuse de se reconnaître créature de Dieu. Tous les gouvernants qui nous dirigent actuellement ont ça en commun, ils refusent de croire qu'ils sont soumis à Dieu, et ils répètent « je ne servirai pas ». La seule chose qu'ils ont oublié dans leur petite intelligence, c'est que quand on dit « je ne servirai pas », quand on se révolte contre Dieu, on se révolte contre Dieu parce qu'on croit en Dieu. On ne se révolte pas contre quelque chose qui n'existe pas. Toutes les lois actuelles mortifères de la France, qui ont Dieu directement en ligne de mire, qui veulent lutter contre l'influence chrétienne en France, l'influence de Dieu en France, toutes ces lois, qu'est-ce qu'elles disent en fait? Elles disent deux choses. D'une part, Dieu existe. Deuxièmement, Dieu a donné une loi. Eh bien, moi, en tant que chef de gouvernement, en tant que responsable politique, je refuse de suivre la loi de Dieu parce que je veux en faire qu'à ma tête et je refuse de servir. Je ne servirai pas, n'en servirai pas. Quelqu'un qui a déjà essayé ce système-là il y a longtemps, il s'appelle Lucifer, c'est le plus bel ange du ciel. Lux, c'est la lumière, ferre, c'est porter. Donc Lucifer, c'était le plus bel ange du ciel, la gloire du ciel, près Dieu. Il s'est pris pour le bon Dieu et il a dit, non, je ne servirai pas. C'est exactement ce que disent tous les membres des gouvernements pratiquement du monde entier. Il est rarissime d'avoir un homme politique qui ait le courage de faire une référence à Dieu. Il y en a quelques-uns. Il n'y a pas très longtemps, Le président de la Hongrie a nettement fait référence à Dieu dans un discours qu'il a donné. En Pologne, c'est pareil. Au Pérou aussi, il y a une consécration du Pérou au Sacré-Cœur il n'y a pas très longtemps. Et donc, ce sont quand même encore des petites références, heureusement, à Dieu. Il y a encore quelques-unes, mais de moins en moins. Et c'est pour cela que le démon a libre cours en France. Le démon peut faire en France absolument tout ce qu'il veut, littéralement. Pourquoi ? Parce qu'on on s'est moqué du bon Dieu. Comment on bloque cela ? Comment on bloque le démon ? Par état de grâce. Si quelqu'un est en état de grâce, il a la charité en lui, alors le démon ne peut pas rentrer dans cette âme, il a des trucs comme il le veut. Vous voyez ? Donc, revenons en haut de la page 67, donc sur ce point important donc, de saint Thomas d'Aquin. Il dit bien que la créature raisonnable, il parle de l'homme ici, se trouve soumise à la loi éternelle, d'abord parce qu'elle a une certaine connaissance de la loi naturelle, de la loi éternelle, donc j'ai expliqué, c'est la participation de la loi éternelle dans la créature raisonnable qui est la loi naturelle, donc pas la loi naturelle, on a une certaine connaissance de la loi éternelle, même si on est un païen. Ensuite, parce qu'il existe en toute créature raisonnable un penchant naturel lorsqu'il est conforme à la loi éternelle, j'ai déjà expliqué pourquoi, parce que à partir du moment où j'ai une âme, j'ai une intelligence dont l'objet formel est le vrai. J'ai une volonté, parce que je suis un homme, j'ai une âme, donc si j'ai une âme, j'ai une volonté, dont l'objet formel est le bien. Malheureusement, le péché originel est là. Le péché originel est là, et même pour ceux qui sont baptisés, il y a une ignorance dans l'intelligence, il y a une malice dans la volonté. Il y a concupiscence également dans concupiscible, et la faiblesse. Et la faiblesse également dans l'irascible. Alors, vous pensez très bien que si une âme baptisée a déjà, je dirais, cette énorme difficulté d'avoir à se battre pendant toute sa vie, un bébé qu'on baptise quand il a quelques heures va devoir se battre pendant toute sa vie, même s'il vit jusqu'à 120 ans, va devoir se battre pendant toute sa vie contre l'ignorance, contre la malice, contre la faiblesse et contre la concupiscence, contre les quatre blessures de notre âme. Et donc il va avoir besoin de prier, il va avoir besoin des sacrements, la Sainte Eucharistie, la Sainte Communion, la pénitence aussi, pour justement lutter contre cette mauvaise tendance qui est en nous. L'homme n'est, je dirais, disciple du démon, à cause du fait qu'il a le péché originel. Sauf notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, et notre Seigneur Jean-Marie. Dans tous les hommes, c'est comme ça. Alors vous pensez, si un catholique a déjà ce combat terrible à mener, alors qu'il est baptisé, qu'il a accès au sacrement, pensez au combat encore plus incertain que vont devoir mener les pauvres gens qui n'ont pas le baptême. Les milliards de gens qui ne sont pas baptisés sur la terre et qui ont une intelligence viciée par le péché originel, qui ont une volonté irascible, inconcupiscible, aussi viciée par le péché originel, mais qui n'ont pas l'accès au sacrement, qui n'ont pas l'accès à la pénitence, qui n'ont pas l'accès à la Sainte Eucharistie, qui donc ont beaucoup plus de difficultés encore que nous, pour nous catholiques, pour justement suivre le bon Dieu. C'est pour cela qu'il y a un devoir gravissime pour l'Église catholique d'être missionnaire, ce qu'on appelle le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça, pas autre chose. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ est traduit par l'esprit missionnaire de l'Église, apporter le vrai, apporter la connaissance du vrai, la connaissance du bien suprême, du vrai suprême, la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, saint Thomas explique, donc on est page 67, toujours sur le polycopier, nous sommes au troisième paragraphe. Cependant, ces deux modes, donc connaissance de la loi éternelle, d'une part, et penchant naturel lorsqu'il est conforme à la loi éternelle, j'ai déjà expliqué, ces deux modes existent d'une façon imparfaite et comme décomposée chez les pécheurs. Les pécheurs, qui n'ont pas la connaissance du vrai Dieu, parce qu'ils n'ont jamais été baptisés, ou encore pire, les pécheurs qui ont connaissance du vrai Dieu, mais qui vivent dans le péché mortel, alors qu'ils sont baptisés, les mauvais catholiques, eh bien, ces pécheurs ont en eux une décomposition, je dirais, de cette chaîne qui doit les unir au bon Dieu. Donc le terme utilisé par saint Thomas, je répète la phrase, un mode qui existe d'une façon imparfaite et décomposée chez les pécheurs. L'inclination naturelle à la vertu chez le pécheur est faussée par l'habitus vicieux, les mauvaises habitudes. De plus, leur connaissance naturelle du bien est obscurcie par les passions et la facilité à pécher. Donc c'est comme quelqu'un, si vous voulez, qui cherche à voir son visage sur un miroir, et le miroir est brisé, on ne voit plus rien. Hein, le miroir est complètement brisé, donc il y a des centaines de petites parcelles de miroir, on voit un petit peu vaguement qu'il y a un homme devant le miroir, c'est tout ce qu'on voit. On ne voit aucun détail justement parce que le miroir est brisé. Eh bien, l'inclination naturelle à la vertu existe toujours, même chez un pécheur non catholique, non baptisé. Mais cette inclination à la vertu est faussée, c'est-à-dire va être fragilisée encore par l'habitus vicieux, c'est-à-dire par le vice. Alors, ceux qui sont catholiques, qui vivent malheureusement dans le péché, ont cette même vertu, cette inclination naturelle à la vertu faussée par l'habitus vicieux, mais de façon peut-être plus profonde encore, parce que justement, eux, ils n'ont pas d'excuses. Cependant, un baptisé qui vit un tel péché mortel a le pouvoir de se relever beaucoup plus facilement qu'un quelqu'un qui n'a pas le baptême. J'en mets une petite remarque que Mgr Lefebvre nous avait faite une fois, j'en ai déjà parlé dans les cours de catéchisme pour adultes que je donnais il y a plusieurs années, et qui était quelque chose d'important à comprendre. Une fois, un séminariste avait dit à une récréation, au cours d'une récréation, on était plusieurs à discuter, Mgr Lefebvre était avec nous. Et puis un séminariste qui a dit, oh, il vaut mieux être un bon protestant qu'un mauvais catholique. Et Monseigneur l'a repris en disant, non, il ne faut pas dire ça. Parce que le séminariste, il vaut mieux être un bon protestant qu'un mauvais catholique. Monseigneur donc l'a dit, non, on ne peut pas dire ça, parce que un catholique a sur lui un caractère, dans son âme un caractère, le caractère du baptême. Et le caractère du baptême donne une dignité à cette âme que l'âme d'une personne non baptisé n'aura jamais, parce qu'il manque de caractère. Donc un protestant baptisé avec un baptême invalide n'a pas ce caractère du baptême. Et donc, même si naturellement il peut y avoir des bons protestants, je ne dis pas que ça n'existe pas, il peut exister des protestants qui ont une certaine bonté naturelle, cette bonté naturelle n'empêche pas malheureusement que leur âme n'est pas marquée par ce caractère du baptême. Et donc un mauvais catholique a une grandeur supérieure parce que justement son âme est marquée par le caractère du baptême. De plus, saint Thomas explique d'abord que chez le pécheur, il y a cette inclination naturelle à la vertu est faussée par l'habitus vicieux, mais de plus, dit-il, la connaissance naturelle du bien est obscurcie par les passions et la facilité à pécher. Le vice est ancré dans l'âme, et ce qui fait que ce vice va entraîner une facilité à pécher, une espèce de descente naturelle, si vous voulez, vers le péché, l'attraction naturelle vers le péché qui est augmentée par le fait que ce vice tient l'âme, comme les racines d'un arbre, si vous voulez. Quand l'arbre est tout petit, un arbrisseau, on peut l'arracher relativement facilement. C'est un grand arbre, c'est fini, terminé, on ne peut plus l'arracher. Comment voulez-vous arracher un chêne qui a 3 siècles? Il reste toujours des racines parce qu'elles sont trop profondes pour être arrachées. On ne peut pas arracher l'arbre comme ça, c'est beaucoup, sauf en disant des machines extraordinaires. Eh bien, c'est pareil pour l'âme. Donc, chez le pécheur, la connaissance naturelle du bien va être obscurcie. Si vous voulez, il y a une espèce de nuage sombre qui passe sur cette âme, ce qui fait que la passion, la facilité à pécher, entraîne beaucoup plus facilement cette âme loin du bon Dieu. Chez les bons, au contraire, dit saint Thomas, ce double mode de connaissance se réalise d'une manière plus parfaite, parce que la connaissance de foi et de sagesse s'ajoute en eux à la connaissance naturelle du bien. Et au penchant naturel vers le bien s'ajoute antérieurement l'impulsion de la grâce et de la vertu. Et notre Seigneur Jésus-Christ, par sa grâce, va augmenter les vertus infuses. Le bon Dieu, par sa grâce, va augmenter en nous ce désir de nous rapprocher du bon Dieu. Voilà pourquoi il est tellement important pour un catholique, surtout actuellement, de se confesser régulièrement. Pourquoi ? Parce qu'un catholique qui se confesse régulièrement est un catholique qui sera beaucoup plus fort pour éviter le péché, qui va augmenter en lui, si vous voulez, cette impulsion de la grâce et de la vertu. Même, je dirais, même si un catholique est en état de grâce, il a besoin de se confesser. Pourquoi ? Parce que dans ces cas-là, la confession va augmenter ce qu'on appelle la grâce seconde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le sacrement de pénitence, la grâce, la confession, l'absolution sacerdotale va augmenter le degré de charité déjà existant dans cette âme. Donc il y avait déjà un amour du bien dans cette âme qui va être augmenté par la confession, puis bien sûr encore plus par la communion. Voilà pourquoi, surtout aujourd'hui, pour se protéger nos enfants, il faut nous donner à tous cet amour, ce désir de la confession fréquente. Oui. Donc c'est un point très important, donc ce troisième paragraphe de la page 67 sur le polycopier. Donc le pécheur a une inclination naturelle à la vertu qui est faussée par le vice, qui va l'entraîner de plus en plus, si vous voulez, comme un poids lourd qui nous entraîne la tête sous l'eau, la tête dans la boue. Au contraire, chez les bons, ceux qui vivent en état de grâce, eh bien, cette connaissance de foi et de sagesse s'ajoute en eux à la connaissance naturelle du bien et s'ajoute antérieurement l'impulsion de la grâce et de la vertu. Il est donc plus facile pour quelqu'un qui est en état de grâce d'aimer le bon Dieu que pour quelqu'un qui vit dans le péché mortel jusqu'au cou. C'est-à-dire, on peut résumer cela en disant ceci, et c'est le quatrième paragraphe de la page 67 sur le polycopier. On est tous soumis à la loi éternelle. Il y en a qui vont la suivre de façon libre et il y en a qui vont la suivre de façon obligatoire. Tout le monde est tenu de suivre la loi divine. Certains vont la suivre par amour et certains sont obligés de la suivre parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Un pécheur ou un bandit qui ne s'est jamais préoccupé du bon Dieu, qui meurt, qu'il le veuille ou non, que ça lui plaise ou non, eh ben, son âme va être séparée de son corps par la mort. Et que ça lui plaise ou non, qu'il l'accepte ou non, qu'il croit en Dieu ou non, ça ne changera rien du tout. Son âme va être à ce moment-là jugée par le bon Dieu qui va lui dire, rendez compte maintenant de votre gestion. Je suis votre créateur, vous êtes ma créature, je vous ai donné une intelligence, une volonté, une narrative et un concupiscible. Qu'est-ce que vous avez fait avec tout ça? Est-ce que vous avez utilisé votre intelligence pour atteindre le vrai? Est-ce que vous avez utilisé pour connaître le vrai? Est-ce que vous avez utilisé votre volonté pour atteindre le bien? Est-ce que vous avez utilisé votre irascible et votre concupiscible pour lutter contre les choses qui vous éloignent de Dieu? Et même les bandits, même ceux qui ne croient pas en Dieu, devant le bon Dieu, ils seront bien obligés de reconnaître qu'il existe. Et c'est ça le drame. Alors, saint Thomas explique cela, donc on est au troisième paragraphe, page 67. Les bons, donc, sont parfaitement soumis à la loi éternelle, puisqu'ils agissent toujours en s'y conformant. Quant aux pécheurs, ils sont soumis à la loi éternelle, mais d'une manière imparfaite, en ce qui regarde leurs actes, puisque c'est d'une façon imparfaite qu'ils connaissent le bien et sont inclinés vers lui. Bon. Toutefois, ce qui est déficient dans leur activité est compensé du côté de la passivité, nous voulons dire que les méchants subissent la peine que leur fixe la loi éternelle en proportion de ce qu'ils ont négligé de faire pour être conformes aux exigences de cette loi. Ainsi, saint Augustin dit-il, j'estime que les justes agissent selon la loi éternelle. Et ailleurs, il dit, Dieu sait ramener à l'ordre les âmes qu'il abandonne et par leur misère bien méritée fournir aux parties inférieures de sa création des lois parfaitement appropriées. Donc encore une fois, donc Dieu nous ramène toujours à l'ordre voulu par lui, soit librement avec les bons, soit contraint et forcé par les mauvais. Même dans un pays comme la France, où les dirigeants, encore une fois, ne font que des lois mortifères qui vont contre la loi naturelle et la loi éternelle, le jour de leur mort, le bon Dieu récupérera son pouvoir total sur ses créatures, et même sur sa créature qui s'est révoltée contre lui. Donc, les mauvais comme les bons sont soumis à la loi du Créateur, parce que rien n'échappe, encore une fois, selon saint Thomas, rien n'échappe aux lois du Créateur et de l'ordonnateur suprême qui assure la paix de l'univers. Saint Thomas explique ensuite, donc c'est toujours au page 67, les hommes spirituels ne sont pas sous la loi, car sous l'influx de la charité que l'Esprit Saint répand dans leur cœur, ils accomplissent de bon gré ce que la loi prescrit. Ils ne sont plus sous la loi de la crainte, ils sont sous la loi de l'amour, la loi de la charité. Ils suivent le bon Dieu par amour pour le bon Dieu. On peut aussi entendre la parole de l'apôtre en ce sens que les œuvres de celui qui agit sous l'influx du Saint-Esprit sont dites œuvres du Saint-Esprit plutôt que de l'homme lui-même. Ce sont les textes qui nous étaient donnés donc dimanche dernier pour le 14e dimanche après la Pentecôte. Quatrième dimanche après la Pentecôte, il y avait ces magnifiques textes de Galates chapitre 5, quatorzième dimanche après la Pentecôte. Et là, on voit très bien, c'est exactement ce que dit ici saint Thomas. Donc, les œuvres de celui qui agit sous l'influx du Saint-Esprit sont dites œuvres de l'Esprit Saint, œuvres de l'Esprit, plutôt que de l'homme lui-même. Et saint Paul, au Galates, au chapitre 5, donne ces fruits de l'Esprit dont parle ici saint Thomas, ces œuvres du Saint-Esprit, la charité, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la bonté, la longanimité, la douceur, la confiance, la modestie, la continence et la chasteté. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi, mais ceux qui sont au Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses convoitises. Au contraire, malheureusement, nous avons aussi la liberté de nous révolter contre Dieu. Le saint Paul nous prévient que la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit va à l'encontre de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Et là, il dit exactement la même chose, ce texte auquel fait allusion saint Thomas, que si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et ensuite, il va donner les œuvres de la chair, c'est-à-dire les œuvres de ceux qui se scoupent de Dieu. Fornication, impureté, impudicité, débauche, idolâtrie, maléfice, inimitié, discorde, jalousie, emportement, cabale, division, faction, envie, meurtre, ivrognerie, orgie et choses semblables. Et je vous ai prévenu, j'ai oublié cette phrase de saint Paul, je vous ai prévenu que ceux qui les commettent, ces œuvres de la chair, n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est clair, c'est net. Il faut bien comprendre les choses. Et comme il est important de connaître et d'aimer, si vous voulez, cet enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut que ces cours sur la somme théologique de saint Thomas ne soient pas simplement des cours qui nous fassent connaître intellectuellement l'œuvre magnifique de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, mais aussi des cours qui doivent nous aider à aimer le bon Dieu chaque jour davantage. Il faut que tous les matins, en nous réveillant, notre amour pour le bon Dieu est progressé. C'est là pour moi aussi comme prêtre, même si nous sommes malheureusement des pauvres pécheurs, même si nous tombons, ça arrive tous les jours aux pécheurs que nous sommes, et bien même si nous tombons, il faut ne pas se décourager, reprendre le chemin de la pénitence, le chemin de la sainte confession, le chemin de la communion, et puis par la sainte messe qui nous unit à notre Seigneur Jésus-Christ, et bien par la sainte messe, justement par la communion intergrâce, reprendre l'union avec notre Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir suivre les œuvres de l'Esprit-Saint plutôt que les œuvres du démon. Rappelez-vous tous ces autres textes, en ce moment il y a des textes magnifiques les dimanches, des autres textes justement qui expliquent très bien ces choses-là. Donc c'était le 14e dimanche, donc ces textes de saint Paul dont je viens de vous parler, c'était dimanche prochain, donc nous avons ces... Je me trompe là. Ces textes dont je viens de vous parler, donc c'était ce dimanche dernier, pardon, 14e dimanche après la Pentecôte, et on retrouve justement cette grande idée dans tous ces textes qui vont justement nous aider à bien comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ est le patron. Ça, c'est les textes aussi. Du coup, du dimanche suivant, du 15e dimanche après la Pentecôte, comme je fais ces cours avec un peu d'avance, je suis un peu perdu dans mes dates là. Donc c'est le 15e dimanche après la Pentecôte, cette année, donc ce sera le 17 septembre. Eh bien, au 15e dimanche de la Pentecôte, l'idée est la même. Voilà ce que dit saint Paul, toujours aux Galates d'ailleurs. Ne vous trompez point, on ne se moque pas de Dieu. Car l'homme moissonnera ce qu'il aura semé, celui qui sème dans sa chair, de la chair moissonnera la corruption, c'est les fruits de la chair. Celui qui sème dans l'esprit, de l'esprit moissonnera la vie éternelle, sont les 12 fruits du Saint-Esprit. Alors, il faut utiliser tous ces textes magnifiques, justement, pour nous aider à nous rapprocher du bon Dieu. Alors, avançons un petit peu de temps. Avançons dans ce texte splendide de saint Thomas d'Aquin. Nous sommes en page 67, deuxième partie de la page. Saint Thomas dit ceci, La prudence de la chair, et la prudence séparée du bon Dieu, ne peut être soumise à la loi de Dieu dans le domaine de l'action puisqu'elle incline à des actes contraires à la loi de Dieu. Mais elle est cependant soumise à la loi de Dieu en ce qui concerne la passivité puisqu'elle mérite de subir une peine selon la loi de la justice divine. C'est-à-dire, Dieu va utiliser sa justice, va appliquer plus exactement sa justice avec les hommes qui refusent sa loi après leur mort. Pour les hommes qui suivent la loi du bon Dieu, le bon Dieu va utiliser sa justice avant la mort. Souvent les gens me disent, monsieur l'abbé, comment se fait-il que les bons souffrent tellement sur la terre aujourd'hui, que les mauvais semblent avoir tous les droits? Parce que le bon Dieu récompense naturellement les mauvais, d'une certaine façon, pour certaines biens naturels que peut-être ils ont fait. Il récompense ici-bas sur la terre parce qu'il sait qu'il ne peut pas les récompenser sur la terre, au ciel, pardon. Et donc, souvent les gens me disent, monsieur l'abbé, quand des jeunes qui me font cette question il y a peu de temps, monsieur l'abbé, comment se fait-il que les richissimes, les millionnaires, ils ont tout et nous, on n'a rien? Ils ont tout ici-bas, ils n'auront rien après. Nous, on n'a rien ici-bas, mais on aura tout, avec la grâce du bon Dieu après la mort. Vous voyez ? Donc, c'est cette phrase qui est très importante de saint Thomas. Donc, la prudence de la chair est cependant soumise à la loi de Dieu en ce qui concerne la passivité, parce qu'elle mérite de subir une peine, selon la loi de la justice divine. C'est-à-dire que la cause... Les causes secondaires, si vous voulez, sont soumises à la cause principale. Le bon Dieu peut laisser une certaine liberté apparente, je dirais, aux causes secondaires, parce qu'il sait très bien que de toute façon, à la fin du grand jeu, comme on dit vulgairement, à la fin du grand jeu, il faudra bien que la cause secondaire se retrouve devant la cause principale et soit obligée de se soumettre à la cause principale. Donc aujourd'hui, un gouvernant maçonnique peut malheureusement se targuer de lutter contre Dieu, hein, et de prétendre que Dieu est mort. Hein, c'est la formule de Nietzsche, un philosophe antichrétien très connu. Donc Nietzsche disait Dieu est mort. Hein, et donc les dirigeants actuels peuvent se targuer que Dieu, de dire que Dieu est mort, mais le jour où ils mourront, eux mourront. Et s'apercevront que Dieu étant un pur esprit ne peut pas mourir. Et donc ce jour-là, ils auront à rendre compte à Dieu de ce qu'ils ont fait. Alors il faut remercier le bon Dieu, mes bien chers frères, remercions le bon Dieu si nous avons ici-bas la connaissance du vrai, et même si nous sommes des pauvres pécheurs, nous sommes tous des pauvres pécheurs, moi le premier d'ailleurs, et même si nous sommes des pauvres pécheurs, ne jamais, jamais, jamais nous décourager. C'est pas parce que malheureusement nous avons commis des péchés, et parfois des péchés graves, que nous sommes obligés de tomber dans le désespoir. Le désespoir n'est pas de Dieu, jamais. Le bon Dieu, justement, nous donne la vertu d'espérance, hein, pour espérer contre toute espérance. Et c'est pour cela que bon Dieu donne, même aux gros pécheurs que nous sommes, il nous donne la possibilité de revenir vers lui par le sacrement de pénitence. Hein. Alors, néanmoins, dit saint Thomas, la prudence humaine n'est prédominante en aucun homme au point que le bien intégral de sa nature soit détruit. Même le pécheur qui vit dans le péché jusqu'au cou garde en lui quelque chose qui le lie à Dieu. Rappelez-vous la formule que j'avais déjà expliquée lorsque j'ai parlé des péchés originels avec saint Thomas. Naturalia manserunt integra. Les choses de notre nature demeurent intègres. Le péché originel ne détruit pas l'existence de l'intelligence, de la volonté, d'irascible et du concupiscible en nous. Donc je garde, même si je suis un pécheur jusqu'au cou, quand mes péchés m'entraînent jusqu'au cou, je garde en moi, par l'intelligence, le pouvoir d'atteindre Dieu. Le pouvoir d'atteindre Dieu, le pouvoir de connaître le vrai, puisque l'objet formel de l'intelligence, même chez un pécheur qui vit dans le péché mortel jusqu'au cou, le pécheur qui vit dans le péché mortel jusqu'au cou garde dans son âme une intelligence et donc garde dans son âme une possibilité d'atteindre le vrai, de connaître le vrai d'abord par son intelligence et ensuite de l'atteindre par le bien. C'est pour ça qu'il ne faut jamais, jamais se décourager. Et même des pécheurs qui ont vécu dans le péché mortel jusqu'au cou, jusqu'à leur mort, au dernier moment, le bon Dieu a la possibilité de sauver des âmes. Au dernier moment, j'ai vu ça en tant que prêtre. Hein, des âmes qui ont réussi à faire une bonne confession générale juste avant de mourir, quelques heures avant de mourir. Regardez le bon larron. Le bon larron qui avait passé sa vie à offenser le bon Dieu, juste avant de mourir, se tourne vers notre Seigneur Jésus-Christ qui est crucifié à côté de lui et qui lui dit « Seigneur, souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis, lui dit notre Seigneur. » Et saint Augustin, qui a la formule, qui a une formule fine, a dit justement en parlant du bon larron, « Cet homme a passé sa vie à pécher et juste avant de mourir, il trouve le moyen de voler. » Cet homme était un voleur et juste avant de mourir, il trouve le moyen de voler le ciel. Vous voyez ? Donc, ne jamais, jamais nous décourager. Donc, la prudence humaine n'est prédominante en aucun homme au point que le bien intégral de sa nature soit détruit. C'est pourquoi demeure chez l'homme un penchant à agir selon la loi éternelle. Pourquoi ? Parce qu'il garde l'intelligence dont l'objet formel est le vrai. J'ai déjà expliqué. Le péché ne détruit pas tout bien de la nature. Le péché va détruire une inclination, va affaiblir plus exactement l'inclination vers la vertu, comme dit saint Thomas, mais le péché ne va pas détruire l'intelligence en nous. On garde une lumière qui nous aide à retrouver le chemin. La même loi éternelle, dit saint Thomas, selon laquelle certains méritent la béatitude ou le châtiment, les maintient également dans cette béatitude ou ce châtiment. En ce sens, les bienheureux et les damnés sont soumis à la loi éternelle. Les bienheureux sont soumis à la loi éternelle en étant au ciel, pour toute l'éternité. Les damnés sont soumis à la loi éternelle en étant en enfer pour toute l'éternité. On ne peut, dit saintement, en même temps affirmer et nier. Tout ce qui agit le fait en vue d'une fin qui a raison de bien. Le bien est ce que tous les êtres désirent. C'est donc le premier précepte de la loi qu'il faut faire, rechercher le bien. Éviter le mal. On peut donc appeler nature de l'homme ou bien celle qui est propre à l'homme. Et en ce sens, tous les péchés, en tant qu'ils sont contraires à la raison, sont contraires à la nature. Certains ont une raison faussée par la passion, par une coutume mauvaise ou par une mauvaise disposition de la nature. Une phrase bien importante au sommet de la page 68 sur le polycopier. Donc saint Thomas dit d'abord: tous les péchés, en tant qu'ils sont contraires à la raison, sont contraires à la nature. Et surtout, bien sûr, ce qu'on appelle les péchés contre nature. Les péchés contre nature sont les péchés qui s'attaquent à la nature même de l'homme. Ils ont donc des conséquences redoutables dans la nature humaine. Si vous voulez, c'est la nature elle-même qui est tordue, qui est viciée. C'est pour ça que malheureusement, les gens qui acceptent dans leur âme des péchés contre nature ont tellement de difficultés après à se sortir de ces péchés contre nature. Et c'est un bien caractéristique de la civilisation moderne qui non seulement ne lutte plus contre ces péchés contre nature, mais qui va au contraire les exacerber, les présenter comme une façon de vivre tout à fait normale. Et donc, bien que nous ayons tous l'usage de notre intelligence et de notre liberté, notre raison, c'est-à-dire notre intelligence, est faussée par la passion, par des coutumes mauvaises, par une mauvaise disposition de la nature. Et bien, ces passions, ces coutumes mauvaises, ces mauvaises dispositions de la nature sont des choses qui vont, si vous voulez, être visibles aujourd'hui de plus en plus, justement, surtout sur les gens qui ont laissé s'enfoncer les racines du péché, ce qui fait que la multiplication des péchés va grossir les racines qui vont pénétrer de façon de plus en plus profonde dans l'âme, et au bout d'un certain temps, eh bien, cette multiplication de péchés mortels va entraîner ce qu'on appelle le vice. Et cette mauvaise disposition de la nature, c'est une nature vicieuse. Saint Thomas d'Aquin l'a déjà expliqué juste auparavant, on a déjà expliqué tout ça, donc je n'y reviens pas. Mais voilà ce qu'il disait, rappelez-vous, l'inclination naturelle à la vertu chez le pécheur est faussée par l'habitus vicieux. L'habitus vicieux, c'est quoi ? C'est une habitude de vice. Alors, il faut donc faire extrêmement attention à cela, c'est que la meilleure façon pour nous de lutter contre les habitudes vicieuses, c'est de faire attention de ne pas garder dans notre vie de tous les jours justement des circonstances, des occasions prochaines volontaires de péché mortel qui nous poussent vers le péché. Souvent, ces mauvaises dispositions de la nature, par exemple, ces vices, ces tendances vicieuses, ces passions vicieuses, ces coutumes vicieuses s'introduisent dans les âmes parce que les âmes gardent, par exemple, des mauvaises compagnies, des mauvais compagnons. Il est évident que quelqu'un, par exemple, qui a une tendance naturelle, je dirais, de trop boire, par exemple, parce que, je sais pas, parce que son père était un ivrogne, sa mère était un ivrogne, a toujours vécu dans une famille, quand il était adolescent, une famille qui buvait plus que de raison, et donc il y a une espèce de tendance naturelle de boire lui aussi, parce qu'il a toujours eu ce mauvais exemple, eh bien, il va arriver, avec la grâce du bon Dieu, à lutter contre cette tendance naturelle, malheureusement, de trop boire en lui, et s'il choisit bien ses amis. Mais s'il commence à fréquenter des groupes de jeunes qui se réunissent constamment dans des bars où ils vont boire plus que de raison, eh bien, il va suivre les mauvais exemples qui lui ont été donnés. Et c'est pareil pour tout. Quelqu'un, par exemple, qui a une mauvaise tendance contre nature, un homme, par exemple, qui est attiré naturellement par les hommes et pas par les femmes, bon, c'est quelque chose contre nature, mais c'est quelque chose, une tendance qu'il a en lui. Eh bien, il est évident qu'une personne qui a cette tendance doit faire très attention à ne pas garder dans ses relations des gens qui ont ces mêmes tendances. Sinon, qui se ressemblent, s'assemblent, ils vont se retrouver ensemble dans des endroits où justement des hommes de ce genre, qui ont ce problème de péché contre nature, d'homosexualité, eh bien, ils vont se retrouver ensemble et évidemment ils vont être poussés au péché. Voyez, donc tout est possible avec la grâce du bon Dieu. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un peut avoir une tendance, c'est très important, ce texte de saint Thomas, question de saint Thomas, lorsque quelqu'un a une tendance naturelle, ça ne veut pas dire qu'elle est bonne. Pourquoi ? Justement parce que le péché originel est là, parce que l'homme est mauvais dans sa nature, parce qu'il y a l'ignorance dans l'intelligence, parce qu'il y a la malice de la volonté, la faiblesse de l'irascible, la concupiscence est là. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a une tendance naturelle, ça veut dire qu'elle est bonne et qu'il faut la suivre. Cette tendance naturelle s'oppose à la loi de Dieu. Eh bien, justement, la loi éternelle imprimée en nous par la loi naturelle devrait être capable de nous indiquer, attention, là tu fais fausse route. Pour ça, lorsque les psychologues modernes ou les psychanalystes modernes vous disent qu'à partir du moment où un bien ou une tendance est naturelle, il faut la suivre, ça c'est toutes les idées mortifères de Sigmund Freud, qui ont fait tellement de mal, c'est parce que cette tendance est en nous, ça veut dire qu'il faut la suivre, disent-ils. C'est totalement faux. Si la tendance va contre la loi naturelle, il ne faut pas la suivre. Quand quelqu'un me sort des analyses de ce genre, ça régulièrement... On parle avec des gens qui ne sont pas catholiques, souvent ils sortent ça, monsieur l'abbé, c'est des tendances, une tendance chez moi, j'ai une tendance naturelle, par exemple, à être, en tant qu'homme, être attiré par les autres hommes, donc j'ai une tendance homosexuelle, eh bien j'ai le droit de la suivre, et ce n'est pas un péché pour moi, ce n'est pas quelque chose de mauvais pour moi, puisque c'est une tendance naturelle. Je réponds, écoutez monsieur, sachez que moi je suis kleptomane par tendance. J'ai une tendance en moi de voler les portefeuilles des voisins, des gens que je rencontre. Je me traite doué pour ça, j'arrive à les voler sans qu'ils se rendent compte. Et donc, je collectionne les portefeuilles volés. Monsieur, je venais vous avertir que je viens de voler votre portefeuille. Il est dans ma poche et je le garde parce que c'est une tendance naturelle que j'ai de voler les portefeuilles des voisins. Puisque vous me demandez de respecter votre tendance naturelle à l'homosexualité, je vous demande le droit de respecter en moi ma tendance à la kleptomanie. Monsieur, je garde votre portefeuille. Alors là, ils comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous voyez. Et donc, il faut bien comprendre toutes ces choses-là. Et cette question de saint Thomas, dans toutes les choses humaines, sont-elles soumises à la loi éternelle, donc, l'article 6 de la question 93, est une question très importante, parce qu'un article très important, parce que justement cette question 93 nous aide à mettre les barres sur les T et les points sur les I, hein, l'existence d'une loi éternelle. Hein. Donc, ne nous décourageons pas, hein, cette Les questions sont un petit peu plus complexes, donc je vous demande à ceux qui écoutent, qui ont courage d'écouter ce que je vous raconte là sur Internet, par ces choses que je mets sur Internet, donc ces conférences que je mets sur Internet toutes les semaines, eh bien, ayez aussi la volonté de relire après avoir écouté la conférence. Vous écoutez la conférence avec le polycopié, et puis après, reprenez le polycopié. Une fois que vous avez écouté la conférence, reprenez le polycopié et relisez le polycopié. Par exemple, après avoir écouté cette conférence, 2-3 jours après, dans la semaine, avant la conférence suivante, vous relisez l'imprimé secondé, question 93, article 6, le résumé que j'ai mis en bas de la page 66, toute la page 67, en haut de la page 68 où nous en sommes maintenant. Maintenant, si vous voulez encore aller plus profondément, je vous conseille bien sûr beaucoup, pour ceux qui ont le temps, les moyens aussi de le faire, d'aller directement au texte de saint Thomas. Donc vous allez dans le texte de saint Thomas, vous allez chercher dans la prima secondé, question 93, article 6, et vous lisez le corps de l'article. Bon, c'est encore un peu plus de temps, vous voulez aller encore un peu plus profondément dans les choses, vous analysez les objections données par saint Thomas, en général il y en a 3 par article, première objection, puis vous lisez tranquillement la réponse à la première objection à la fin de l'article, ensuite la deuxième objection, la réponse à la deuxième objection à la fin d'article, et la troisième objection, puis la réponse à la troisième objection en fin d'article, justement pour bien analyser le raisonnement de saint Thomas d'Aquin, être capable après, avec la grâce du bon Dieu, donc de faire passer tout ça dans votre vie de tous les jours. Voilà, nous allons terminer par une petite prière. On va demander à la très sainte Vierge Marie de nous aider à jamais nous décourager dans ce domaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.